Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Philosophie au présent, l'émission du Collège international de philosophie. Je suis Nathalie Perrin et Isabelle Raviolo est avec nous aussi.
Bonjour à tous.
Voilà, nous sommes ravis de vous retrouver pour une émission que nous allons consacrer à Jacques Derrida. C'est une émission qui sera découpée en deux fois 30 minutes. Isabelle Raviolo et moi-même allons vous parler d'un pan de l'œuvre ou de la réflexion de ce grand philosophe français qui est un des fondateurs du Collège international de philosophie, institution à laquelle nous appartenons toutes les deux et à laquelle cette émission... et de laquelle cette émission est partie. Et on en profite tout de suite pour vous annoncer, pour annoncer les deux prochaines émissions, Isabelle. Donc la prochaine sera, on a dit, le 16 mai, c'est
oui,
ça ?
Oui, tout à fait, le 16
voilà.
mai.
Et puis la seconde sera le 29 mai. Voilà, et on sera des émissions consacrées spécifiquement autour du cinéma.
Hein. Voilà, voilà, c'est ça.
On va revenir sur la dimension esthétique de cette émission. Donc pour aujourd'hui, une des dimensions de Derrida qui m'intéressait et qui me semblait être très actuelle pour aujourd'hui, c'est le problème de l'enseignement de la philosophie ou la question de l'enseignement de la philosophie telle qu'elle a été traitée par Jacques Derrida, notamment aux alentours des années 74-75. Alors pour refaire une petite histoire du travail de Jacques Derrida avec un groupe qu'il a contribué à fondé et qui s'appelle le GREF, le groupe des enseignements des enseignants de philosophie. Pour revenir sur ce moment-là français, de la philosophie française qui réfléchit à la question de l'enseignement de la philosophie à sa place dans l'éducation, et pour refaire l'histoire un petit peu, il s'agit de ces années 74-75 où on est sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Toute cette, parce qu'il s'agit bien d'une attaque gouvernementale qui avait été menée contre l'enseignement de la philosophie, visant à diminuer ses horaires dans l'enseignement du secondaire. Toute cette attaque va se placer autour des gouvernements, que ce soit des gouvernements Chirac, du 27 mai 74 au 25 août 76, avec notamment son ministre de l'Éducation nationale, René Haby. Et puis ça va se poursuivre, cette attaque, qui commence avec ce premier gouvernement Chirac sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, va se poursuivre jusque finalement dans les années 80-81. Cela va s'arrêter avec l'arrivée de François Mitterrand. Donc on est dans des années où le pouvoir en France décide, par décret, par volonté institutionnelle, de diminuer la place de l'enseignement dans la philosophie. Et c'est ce qu'appelle, c'est ce que Derrida appelle dans un livre que je recommande aux auditeurs qui s'appelle Du droit à la philosophie, qui est un très gros livre, mais il faut pas du tout en avoir peur. C'est un livre qui reprend dans certaines de ses parties tous ces écrits qui désormais ont disparu, tous les écrits qui ont été faits autour de ce groupe de défense de l'enseignement de la philosophie, le GREF, et Derrida les a repris dans ce livre Du droit à la philosophie. Alors donc, dans ce livre, Derrida parle de la réforme Haby ou du projet Giscard Haby, et qui va faire loi le 11 juillet 75, et portant une loi qui va porter sur la réforme de l'enseignement du second degré. Loi qui va être accompagnée du collège unique et de la question de l'orientation scolaire. Donc Derrida va dire de cette réforme qu'elle est une commande patronale expressément formulée. Des textes, nous dit-il, pouvant le prouver. Et qu'elle modernise à peine les tentatives les plus lugubres du Second Empire et de Vichy. Et il dira encore, et faisant écho à un autre philosophe, à François Châtelet, que si cette attaque à l'encontre du cours de philosophie n'est pas la première, c'est une attaque cependant inédite, cette réforme Haby-Giscard, ou Giscard-Haby comme il le dit, inédite dans sa forme, dit-il, mais par le fait aussi de ses intentions déclarées. Donc Derrida nous dit que cette réforme équivaut pratiquement à une suppression de l'enseignement de la philosophie dans le but avoué de hâter la spécialisation professionnelle. Alors, il faut aussi préciser que cette réforme de l'enseignement de la philosophie, voulue par la présidence Giscard et par son ministre de l'éducation Habit, porte également sur l'université, puisqu'il s'agit d'une réforme d'ampleur et qu'il y a une volonté, là encore, de professionnaliser tous les niveaux de l'enseignement supérieur. Le slogan de cette époque-là, slogan politique, hein, pour réformer l'université sur le mode de la professionnalisation, c'était réconcilier l'université et la société en préparant les étudiants à la vie réelle. Bon. Alors, des réponses étudiantes à cette époque-là, parce que c'était il faut quand même se dire qu'on est en 75, 76, 7, 8 ans après mai 68 et que c'est encore très bouillonnant et que les étudiants d'emblée réagissent, hein, contre cette volonté d'une forme de réalité professionnelle entrant dans l'université. La réponse des étudiants, c'est refus d'un enseignement sélectif mis au service de la classe dominante et démocratisation réelle de l'université. Alors, il faudrait effectivement consacrer peut-être beaucoup plus de temps à tout ce moment des années 74-75, au moment où le greffe est créé avec Jacques Derrida, et où des grands noms de la philosophie, de la philosophie ou de l'histoire, et des professeurs de philosophie, des professeurs d'histoire, mais encore d'autres enseignants attachés à la question de qu'est-ce qu'éduquer au sein de l'éducation nationale, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on porte comme travail. Il faudrait effectivement faire tout un travail beaucoup plus pointu et remonter à finalement des précurseurs de cette question de l'enseignement de la philosophie. Et un des précurseurs, et on s'arrêterait là pour aujourd'hui parce qu'il ne s'agit pas de remonter trop loin, mais ça pourrait être François Châtelet. Parce que François Châtelet est le premier à avoir écrit un ouvrage qui s'appelle « La philosophie des professeurs » qui est apparu en 69-70 et qui a été le premier ouvrage à essayer de s'attaquer à l'idéologisation de l'enseignement de la philosophie au sein de l'enseignement secondaire en regardant ce que les programmes demandaient aux profs de philo de faire et quelle était l'idéologie de ces programmes. Alors Jacques Derrida s'inscrit un peu dans ce mouvement de contestation de la place de la philosophie dans l'enseignement secondaire puis à l'université. Sauf que là, Derrida, et Châtelet fera partie de ceux qui vont accompagner Derrida, hein, jusqu'à créer, en 82-83, le Collège international de philosophie, qui finalement est issu de ce mouvement de contestation né dans les années 74-75. François Châtelet va, s'associant avec Derrida, a été peut-être un des premiers à montrer vraiment l'historique de cette attaque et de montrer un petit peu les rouages. Et notamment, il insiste sur une chose qui est très intéressante pour nous, avant de reprendre Derrida dans quelques petites minutes. Il y a l'argument que repère François Châtelet, l'argument des pouvoirs, c'est la disjonction philosophique. C'est-à-dire que ce que remarque François Châtelet, c'est que on va d'autant plus attaquer la place de l'enseignement de la philosophie au lycée, qu'on va la reconnaître comme étant une valeur culturelle importante et intéressante. Autrement dit, on va disjoindre l'enseignement et le haut intérêt culturel de la philosophie. C'est-à-dire, en tant qu'enseignement, on va la dénigrer, hein, on va essayer de dire le temps et l'énergie perdue que représente son enseignement, hein, voilà. Et en même temps, on va lui reconnaître, voilà, sa place culturelle, hein, une espèce de place culturelle d'ailleurs qui sert la place de la France comme nation de la culture. Bon. En même temps, on va reconnaître donc la place la nécessité de cette pensée en tant que voilà créant des livres, des essais, etc. Donc les pouvoirs publics établissent une séparation entre la philosophie qu'ils comprennent comme activité intellectuelle en général et la philosophie enseignée dans les lycées ou dans les classes élémentaires du supérieur. Sont donc distingués, et ça c'est François Châtelet qui insiste là-dessus dans cette attaque, deux types de philosophie qui correspondent à des lieux que l'on dit ou que l'on veut tenir pour séparer et à des traitements qui ne le sont pas moins. Alors la première manière de voir la philosophie, c'est correspond à l'image traditionnelle de la philosophie dans l'institution, celle qui a ses titres de noblesse, voilà, une sorte d'aristocratie et de suprématie de ou dans la pensée, à laquelle on va conférer donc un rang spécial, un rang tout honorifique, et non pas véritablement de transformation possible. En tout cas, c'est voilà cette philosophie aristocratique ou de noblesse un peu. On peut avoir du respect pour elle. Hein. Bon, c'est celle qui écrit des livres, voilà, qui forme des chercheurs, qui forme des écrivains. Et puis il y a la seconde, celle qui est l'objet depuis le 19e siècle avec Victor Cousin d'un enseignement. Hein. Et qui voilà dans cet enseignement entre aussi dans la formation des élites. Bon. Or, à cette philosophie-là qui est présente dans l'enseignement français depuis le 19e siècle, on va lui reprocher son inutilité pour la formation actuelle de la jeunesse, nous dit François Châtelet. Donc c'est cette disjonction qu'il fallait souligner, qui est intéressante, entre un exercice culturel et un enseignement de la philosophie que repère François Châtelet dans divers articles qu'il a écrits autour de cette question de l'enseignement de la philosophie. Et donc, Derrida et Le Greffe hein, vont s'inscrire avec François Châtelet dans cette question de l'enseignement de la philosophie, dans cette place de la philosophie d'enseignement secondaire, et vont entamer une défense de la philosophie, de sa place nécessaire dans l'enseignement, voilà, des jeunes, des adolescents. Tout d'abord, avec l'idée qu'il y aura une transformation aussi à penser du côté des universités. Alors pour faire un peu vite, bon, il faudrait s'arrêter sur des questions qui sont très intéressantes, parce que qui dit attaque contre l'enseignement de la philosophie dit aussi que la philosophie représenterait un danger. Alors là, il y a tout un tas d'écrits de cette époque, voilà, notamment un ouvrage qui a lui aussi disparu, La philosophie dans le mouroir, dans lequel... voilà, des philosophes comme René Scherrer, comme François Châtelet encore, posent la question de voilà, mais cette attaque se fait au nom de quoi ? Eh bien, elle se fait au nom d'un danger que représenterait la philosophie, un danger tout simple, celui de perdre du temps à faire penser des lycéens, alors que finalement le but de l'école ne serait pas tant de penser, de réfléchir, de mettre en question, mais plutôt d'apprendre et de rester dans une stricte instruction. Pour mieux avoir des diplômes et entrer par là même dans le marché, sur le marché du travail. Alors, revenons un petit peu à Derrida et plus spécifiquement à ce groupe qu'il a composé à partir de cette attaque très dure du pouvoir de Valéry Giscard d'Estaing et de son ministre de l'Éducation, René Haby. Et Derrida, voilà, s'attaque à cette politique de droite qui veut liquider la philosophie dans ses classes du secondaire. Et dans un article donc qui est reproduit dans Du droit à la philosophie, dans un article qui s'appelle La philosophie et ses classes, daté de 75, Derrida dit que la destruction de la classe de philosophie au lycée est à comprendre dans l'optique de soustraire la masse des lycéens à l'exercice de la critique philosophique et politique, et aussi à celui de la critique historique. Parce qu'effectivement, c'est ce qu'il souligne, et ça se vérifie hein, depuis très longtemps, quand on attaque la philosophie, ce qu'on attaque aussi, c'est l'histoire. Hein. Donc, il dit, l'histoire est la cible associée à la philosophie. On a souvenir, dans des gouvernements précédents, de l'attaque faite à l'enseignement de l'histoire, sa diminution en termes de nombre d'heures pour un programme qui est toujours autant démentiel et dont souffrent très certainement nos lycéens. Donc Derrida rejoint Châtelet sur ce constat d'une attaque globale qui va viser les disciplines jugées obsolètes. Bon, ce qu'on a appelé aussi à une époque les humanités, alors qui tendent à revenir, en tout cas sous la formulation aujourd'hui dans la nouvelle proposition de la place de la philosophie en première, hein, les humanités, bon, philosophie-humanité, on verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, voilà, Derrida rejoint Châtelet sur une destruction programmée de toutes ces disciplines qui sont jugées obsolètes, voilà, qui ne peuvent pas servir ce à quoi on doit destiner, ce à quoi devrait se destiner l'école, à savoir faire rentrer les jeunes dans le marché du travail. Donc Derrida nous dit « L'attaque de la classe de la philosophie au lycée intervient à un moment du parcours scolaire où l'exercice de la critique philosophique est mis à la portée de jeunes qui sont précisément en âge de voter. » Donc attaquer la philosophie, c'est aussi attaquer cette réflexion politique que le jeune peut enfin rencontrer en philosophie qui arrive en terminale et débattre aussi à travers les philosophes de ce que politique veut dire, de ce qu'engagement veut dire. Et Derrida ajoute, la classe de philosophie est probablement le seul lieu où les textes de la modernité théorique, par exemple ceux du marxisme ou de la psychanalyse, peuvent donner lieu à une lecture et à une interprétation. Donc cette attaque du pouvoir est tout sauf ambiguë, hein, elle est au contraire très claire, puisqu'elle se déclare expressément contre tout ce qui peut aider à la constitution d'un esprit critique dans l'éducation de la jeunesse. Voilà, jeunesse et enseignants qui évoquent pour ce pouvoir le souffle encore chaud de 68, nous dit Derrida. Alors, qu'est-ce que la formation d'État a à faire de cette technique de mise en question qu'est la philosophie? Et donc, que vient faire la philosophie au milieu de techniques pour apprendre à penser qui sont beaucoup plus simples et beaucoup plus économiques? C'est finalement la question qui ressort de ces philosophes comme François Châtelet ou Jacques Derrida par rapport à cette attaque de l'enseignement de la philosophie. Alors, bon, évidemment, cette attaque, elle a pour idéologie fondamentale l'utilitarisme, un certain positivisme, qui ressort à une idéologie globale de technocratique, hein, de classer les futurs travailleurs, hein, de les classer à travers les classes du lycée. Cependant, il ne s'agit pas pour des gens comme François Châtelet ou Jacques Derrida d'en rester à cette surface d'une idéologie technocratique. Parce que, en fait, ce qu'ils identifient l'un et l'autre, c'est que le fond de ce rejet, c'est, malgré la grande généralité supposée de la philosophie qu'on lui attribue, ce qui est attaqué, c'est véritablement une pratique interrogatrice, une pratique de questionnement rencontrée dans ce cours de philosophie pour la première fois dans le parcours du lycéen. Donc, quelle va être finalement l'originalité de la défense de Jacques Derrida et du greffe? De quelle défense s'agit-il, hein? Puisque, voilà, je vous ai un peu retracé les grandes lignes de cette attaque, mais en quoi va consister la réponse de Jacques Derrida et du greffe, hein, de ce groupe d'enseignants qui vont essayer de contrecarrer la réforme Giscard-Abi? Eh bien, la réponse va bien être entendu de défendre cet enseignement, mais de ne pas le défendre comme il a pu être défendu auparavant, au moment où Victor Cousin, par exemple, établit la place de la philosophie dans l'enseignement secondaire en France. Victor Cousin a affaire à des attaques très dures, hein, venant aussi bien de la religion que de certains pouvoirs. Bon, je ne reviens pas sur cette histoire. Et Victor Cousin va défendre la place de la philosophie comme étant une place, alors d'abord, une place ayant une certaine neutralité, Hein, bon, qui est, elle est capable, cette philosophie pour Victor Cousin, d'accueillir la religion. Voilà, elle a une position de neutralité. Elle n'est pas destinée à se positionner. Et Victor Cousin la défendra aussi comme une puissance de réflexion souveraine, au-dessus des autres, hein. D'où sa place en terminale comme une forme de couronnement des études du secondaire. Bon, alors cette défense-là, c'est pas du tout ce que veulent reproduire des gens comme Jacques Derrida, Le Greff et puis François Châtelet, ou on pourrait citer encore Jean-Luc Nancy et j'en oublie. Il s'agira de mettre en place une toute autre défense de la philosophie et de repenser finalement tout ce qui faisait la place de la philosophie telle qu'elle était pensée du côté de l'institution. Et ça passe d'abord, donc, cette défense par la volonté de rompre avec une continuité de la tradition de l'enseignement philosophique, d'une place et d'un rôle qu'on lui fait tenir. Et cette rupture, il s'agit donc de, pour Derrida, de montrer que la philosophie n'a rien d'une discipline qui serait à part, qui viendrait couronner les autres. D'où que Derrida va dans tous ses écrits, à l'aide de tous ses professeurs connus ou inconnus qui vont écrire aux côtés de lui, Derrida va réclamer une extension de la philosophie en deçà de la classe de terminale, en première, en seconde, enfin nos équivalents, voire même au collège ou dans les petites classes. Une manière, voilà, de montrer aussi que la philosophie est la seule discipline qui n'a pas droit à une véritable progressivité. Contrairement aux lettres, par exemple, hein, qui commencent au minimum depuis la sixième, hein, voire même avant, puisqu'on fait du français bien avant la sixième, eh bien la philosophie, elle, est la seule discipline à arriver en terminale. Donc elle n'a pas le droit à cette progressivité et elle arrive en terminale avec des exercices que les lycéens n'ont jamais rencontrés, avec des modes de pensée qu'ils n'ont jamais rencontrés. Et véritablement, défendre l'enseignement de la philosophie, c'est défendre son entrée progressive, c'est défendre l'entrée progressive dans cet enseignement. Bon. Et donc c'est ce que porte là Derrida, c'est de détruire finalement les effets d'un mythe. Et c'est quoi ce mythe? Celui de l'âge naturel pour philosopher. Hein, il écrit tout ça avec des petits tirets. L'âge naturel pour philosophie, pour philosopher. Et son corollaire, hein, l'inaptitude à la pratique philosophique en deçà d'une certaine époque de la vie très déterminée psychologiquement, sexuellement, socialement. Donc ça, première défense, faire descendre la philosophie dans le système éducatif, la donner à un public très jeune pour lui donner l'habitude de philosopher. Évidemment, alors ça c'est des choses, il y a des pratiques aujourd'hui, hein, des pratiques un petit peu marginales d'une philosophie qui se fait par exemple en maternelle. Évidemment, il ne s'agit pas de la philosophie qu'on ferait en terminale, ni même qu'on ferait à l'université, il s'agirait de complètement repenser cet enseignement pour des jeunes enfants, par exemple. Bon. Donc, d'abord, se défaire d'un très vieux verrou psychologique, sexuel et sociopolitique dans cette défense de l'enseignement de la philosophie, abaisser l'âge auquel on rencontre cet enseignement. Et donc, effectivement, parier, hein, parier sur la capacité philosophique d'un enfant, un pari qui est d'avance donné pour Derrida, puisqu'il l'a dit, il dit cette capacité philosophique d'un enfant, il l'a dit très puissante. Hein. Jean-Luc Nancy a mené par exemple des expériences, non pas avec des enfants, mais avec des très très jeunes adolescents au collège notamment. Hein. Il faut revoir ça, se renseigner là-dessus. Alors, deuxième idée essentielle de cette défense, ne pas dissocier l'enseignement de la philosophie, de ne pas séparer la philosophie, hein, comme écriture, comme forme d'essai, comme invention de concept, de sa pratique enseignante, de la manière dont elle se donne comme enseignement. Alors ça, c'était un thème qui était déjà celui de François Châtelet dans La philosophie des professeurs, que je vous ai cité, paru en 69-70, où François Châtelet montre que L'enseignement de la philosophie tel qu'il est pratiqué dans les programmes dans ces années jusque dans ces années 69-70 est un programme qui est complètement hors sol contemporain, c'est-à-dire il ne sait plus ce que philosopher au présent veut dire. Donc ce que reprend là Derrida à travers le greffe et la volonté de défendre l'enseignement de la philosophie, c'est que la philosophie enseignée soit véritablement en accord avec son présent, avec sa contemporanéité, avec ce qui fait sa force philosophique au moment même où elle est enseignée, hein, dans le secondaire. Donc c'est ça, essayer de ne pas disjoindre ces deux lieux d'une philosophie qui écrit et d'une philosophie qui enseigne. L'enseignement doit se tenir au fait et doit rendre compte de la philosophie en marche, hein, de ses dernières avancées, de ses dernières ruptures, de ses crises, hein, c'est fondamental ça, de manière à ce qu'on ne soit plus en décalage, hein, avec une philosophie qu'on continue encore à penser sous le mode d'un absolutisme, hein, d'un savoir absolu, alors qu'elle a complètement cassé ce rapport à l'idée d'un savoir qu'elle peut détenir en propre et qu'elle peut classer dans son contenu. Donc, c'est vraiment ce que pointe Derrida, c'est vraiment la mise en question de la philosophie en tant que couronnement, que genre notoire, savoir connu et reconnu et que l'on fige. C'est une manière de dire que la philosophie, elle n'est pas une, elle n'est pas déterminée, elle n'est pas définie, elle n'est pas assignable, mais qu'elle est toujours, au contraire, en mouvement, qu'elle est toujours en train de s'interroger sur sa propre manière de faire de la philosophie. Ce que philosophie veut dire, c'est finalement une question que se pose tout philosophe qui veut se dire philosophe. Et c'est de cela que doit rendre compte l'enseignement dans le secondaire. Donc ce que met en question la Derrida et ce que met en question avec lui le greffe, c'est une définition de la philosophie comme essence. Soit elle est perçue comme essence, voilà, et c'est ce dont rendent compte les enseignements de la philosophie dans le secondaire, soit elle est perçue comme une certaine expérience, nous dit Derrida, de la question « qu'est-ce que la philosophie ?». Et cette question « qu'est-ce que la philosophie ?», elle est toujours au présent, c'est toujours une question qu'on se pose. Donc, comment défendre ? Eh ben, il faut défendre avec l'idée d'un enseigner autrement la philosophie, de l'étendre longtemps avant la première, longtemps avant la terminale, je vous le disais, et d'éviter vraiment une définition de la philosophie, une conception de la philosophie traditionnelle comme étant hégémonique, hein, ce que Derrida appelle une ontologie, une philosophie ontologico-encyclopédique. Donc, effectivement, parce que, bon, alors pourquoi retard ontologico-encyclopédique, pourquoi parler d'un retard de la part de Derrida? Parce qu'effectivement, la philosophie telle qu'elle est enseignée, elle est toujours en retard sur la philosophie qui est en train de réfléchir à elle-même et à ce que philosopher veut dire. Et j'en termine enfin parce que je vois que le temps passe. Peut-être un dernier point important de cette défense et qui montre à quel point le Derrida, le greffe portent des idées pour l'enseignement de la philosophie aujourd'hui qui sont tout à fait pertinentes. Derrida va montrer que défendre l'enseignement philosophique, c'est vouloir le renforcer, le renouveler, le remettre au niveau de la création philosophique et de ses avancées. Bon. Autrement dit, l'enseignement institutionnel pour lui, ça serait le moyen essentiel d'officialiser, de rendre réellement notoire ce que la philosophie vivante est en train de faire. Bon. Parce que le grand reproche que fait Derrida, et avec lui François Châtelet, c'est le passéisme philosophique qui s'installe au sein de l'enseignement, de cet enseignement au lycée. Et devenant ainsi une espèce de matière morte, inopérante au vu de, des configurations historiques et culturelles. Donc, il y a dans cette défense de l'enseignement de la philosophie une volonté de porter la philosophie vivante au sein même de cet enseignement du secondaire. Voilà, je termine sur quelques petites pistes encore de la réflexion de Derrida, notamment essayer de dire que cet enseignement de la philosophie n'est donc pas inférieur ou séparable d'une philosophie qui penserait, hein, mais qu'elle est complètement associée à la philosophie des essais, à la philosophie qui se targue d'inventer et de créer, sous-entendu un professeur de philosophie pense et crée ou recrée aussi au sein de son cours. Volonté également donc de porter la philosophie en termes de nombre d'heures beaucoup plus importantes, puisqu'effectivement, et là on est encore dans des questions contemporaines, la défense de l'enseignement de la philosophie s'est faite aussi dans un cadre politique de suppression des postes au concours. Bon. Et Derrida, en portant la philosophie, en voulant porter la philosophie en deçà du lycée, au collège ou dans les classes maternelles, pense aussi à tous ces jeunes qui font des études de philosophie et qui ne trouvent pas de travail faute de place ouverte au concours. Donc il y a là dans cette défense la prise en compte non seulement d'une philosophie vivante, d'une philosophie que l'on doit destituer de sa place de domination, qui a à voir aussi avec une certaine position de la raison, hein, en philosophie, hein, voilà, cette philosophie couronnement, c'est aussi une philosophie raison avec un grand R, qui a raison et qui s'installe sur les champs de connaissances pour mieux les classer, les ordonner. Il s'agit au contraire pour Derrida de défaire cela et que la philosophie plus que jamais travaille en ouverture car elle n'est plus du tout ce champ de pensée qui vient structurer l'ensemble des connaissances, mais elle travaille avec d'autres connaissances dans une interdisciplinarité, transdisciplinarité dont le Collège international de philosophie en 82-83 portera la revendication très forte d'une association nécessaire de la philosophie à d'autres disciplines et non pas seulement un repliement sur elle-même. Voilà, je laisse la parole à Isabelle. On va peut-être annoncer la chanson, la première chanson que nous allons passer, alors qui fait en fait, on a choisi aujourd'hui de passer la musicienne, la chanteuse Oum Kalthoum, chanteuse égyptienne renommée que Derrida aimait beaucoup. La première chanson que nous allons passer, mais je vais juste vous traduire les premières paroles, elle s'appelle Fakaruni, et le titre c'est, enfin si on traduit en français, c'est Ils m'ont fait me souvenir de toi. Donc je lis les premières strophes qui sont très belles. Ils m'ont parlé de toi encore une autre fois et à mon souvenir, ils t'ont rappelé avec émoi. Ils ont ravivé un feu nostalgique dans mon cœur et dans mes yeux qui versèrent des pleurs. Ils m'ont fait revivre le passé, son bonheur, sa quiétude, sa douceur et sa tiédeur, sa dureté, ses peines et ses douleurs. Et je me suis rappelé combien nous étions heureux s'il n'y avait pas cet éloignement malencontreux, etc. J'invite les auditeurs à aller voir la traduction de cette chanson sur le site Lyrics Translate. Voilà, Fakaruni par Oum Kalthoum.
كلموني تاني عنك فكروني فكروني صحوا نار الشوق في قلبي وفي عيوني كلموني تالي عنك فكروني فكروني كلموني نار الشوق الشوق في قلبي وفي عيوني رجعوني الماضي بنعيم وغنوتك وبحلاوتك وبعذاب وبقساوت رجعوني الماضي بنعيم وغنوتك وبحلاوتك وبعذاب وبقساوت افتكرت فرح وياك قديه افتكرت كمان يا روحي بعدنا ليك بعدنا ليك بعدنا ليك افتكرت فرح وياك قديه افتكرت كمان يا روحي بعدنا ليك بعدنا ليك بعدنا ليك بعد ما صدقت اني قدرت انسى بعد ما قلبي قدر يسلك ويقسى بعد ما صدقت بعد ما قلبي قدر يسلك ويقسى جنب همسة وغيروني كانوا ليه ليه
Alors, chers auditeurs, Nathalie vous a parlé de l'éducation, de l'enseignement de la philosophie, perçu par Jacques Derrida. Je vais, quant à moi, explorer un autre pan de son œuvre, ce pan de la fin de son écriture, de sa carrière, à travers la question de l'animal et de ce beau texte paru de manière posthume, « L'animal que donc je suis ». Ce livre, en effet, a été édité par Marie-Louise Mallet à partir de textes et d'enregistrements de conférences que Jacques Derrida avait donné à Cerisy. Alors, c'est vrai que si Derrida, comme vous l'a rappelé Nathalie, s'est voulu un penseur de la différence avec un A, c'est parce que finalement, il a voulu penser le plus irréductible de son époque. Alors, qu'est-ce que c'était pour lui, ce plus irréductible ? Bien, il le dira. Ce plus irréductible, c'est la question animale, en rapport avec les violences perpétrées contre les animaux, et en particulier dans le cadre de leur mise à mort industrielle. Alors pour lui, chers auditeurs, c'est pas une question parmi d'autres, hein. Elle indique plutôt qu'une grande désorganisation, réorganisation de la terre humaine est en cours, tant il est probable que le spectacle que l'homme se donne à lui-même dans le traitement des animaux lui devient difficilement supportable. C'est bien ici l'image que l'homme se fait de lui qui est engagée. Alors s'inquiéter avec Jacques Derrida de l'animal, c'est finalement pour nous moins questionner pour elle-même l'expérience d'une absolue altérité que poursuivre la déconstruction de l'anthropologie philosophique en l'amenant à ses limites. Finalement, c'est à la genèse de la conceptualité derridienne que nous sommes ramenés ici avec cette question de l'animal. Dans son rapport au motif de la trace, de l'archiécriture, c'est bien ici le sens indécidable de cette différence que réactive la figure de l'animal. Car la différence s'étend à la vie, la mort en général. En effet, déjà dans de la grammatologie, Jacques Derrida pensait l'élaboration d'un nouveau concept de trace qui entendait prendre en charge ce champ du vivant ou encore du rapport entre vie et mort. Alors c'est vrai que d'abord que pour Jacques Derrida, l'animal n'existe pas. Il n'est qu'un nom. C'est un petit caractère un peu nominaliste de Jacques Derrida. Et finalement, il nous invite, ce nom, à utiliser un mot seulement à la condition de le raturer. Aussitôt, ou bien, afin de mieux encore donner à entendre le pluriel d'animaux dans le singulier. C'est pour ça que Jacques Derrida va préférer au mot « animal » le mot « animaux, ce néologisme qu'il va inventer, puisqu'il l'écrira OT à la fin. Alors cette première décision de Jacques Derrida va en engager une autre. Et cette autre décision va être cette fois relative à l'opposition simple à partir de laquelle est traditionnellement pensé le rapport entre l'homme et l'animal. En effet, celui-ci est envisagé à nouveau frais par Jacques Derrida à partir de l'idée d'une limite multipliée, pluralisée, diversifiée, qui va occasionner une limitrophie. Alors, chers auditeurs, quelle est la fonction du signifiant animal pour Jacques Derrida ? Eh bien, c'est reconnaître l'existence d'abord d'une altérité, au moment même où on la méconnaît. Autrement dit, instituer les modulations d'une différence dans la forme d'une opposition stricte, afin de nier à son profit l'existence d'un lien. C'est à ce titre que le mot animal aménage, à vrai dire, la limite sur laquelle se déterminent tous les concepts destinés à cerner ce qui fait le propre de l'homme, ce qui fait son essence. Alors, loin de figurer une dénégation parmi d'autres, il fonde tout simplement le rapport à soi d'une humanité d'abord soucieuse de son propre, et on pourrait même dire jalouse de son propre. Pour autant, le nominalisme déridien n'aboutit pas à nier l'abîme, diversement peuplé, certes, qui sépare l'homme et l'animal. Mais il entend plutôt parcourir, Jacques Derrida, cette épaisseur feuilletée, l'épaisseur feuilletée de cette limite abyssale, de ces bordures, de cette frontière plurielle et surpliée, en fait. Derrida, alors, entend inquiéter, il entend critiquer, il entend déconstruire une assurance métaphysique qui n'est jamais que le rejeton d'une naïveté philosophique pour lui. Et c'est pour ça que dans son discours sur l'animal, il va s'en prendre à Descartes, Malebranche, Kant, Lévinas et Heidegger. Est-ce que l'animal est une machine, comme le pensaient Descartes et Malebranche ? Est-ce que l'animal est pauvre en monde ou est sans raison ? C'est des questions qui vont préoccuper Jacques Derrida, bien sûr. Et finalement, pour lui, il s'agit d'entendre l'animal à partir d'une autre scène, une scène qui précède la philosophie. Finalement, cette philosophie qui n'a jamais pris en compte ce mot d'animaux, hein, ôté, inventé par Jacques Derrida, sinon au prix d'une réduction au savoir quand on a pris la disjonction entre raison et absence de raison, hein, instinct. Donc, situer Jacques Derrida, c'est le situer dans cette prise de position, sur cette scène antérieure et alternative, sur laquelle l'animal ne paraît plus comme une somme abstraite de réactions relative à un milieu donné, mais au contraire comme un vivant, saisi dans sa singularité, la singularité de l'appel qu'il me fait et de la réponse qu'il me donne. Alors projeté sur une scène qui n'est pas autre que celle de l'écriture et de la trace, il convient alors d'apprécier ce déplacement proposé par ce très beau livre, « L'animal que donc je suis », où le geste de déconstruction de Derrida s'inaugure dans cette scène d'exposition du sujet philosophant à quelque chose de concret, de désorientant, finalement, la philosophie de l'animal va se refuser à penser, se refuser de reconnaître, c'est-à-dire refuser d'éprouver que l'animal aussi regarde l'homme, interpelle de son regard sans fond cet homme. Mais à l'inverse, justement, Jacques Derrida, à l'inverse de cette tradition philosophique, va nous livrer une expérience inaugurale, puisqu'elle ouvre aussi ce livre, hein, et inaugurale dans sa manière de penser l'animal, l'expérience dans sa salle de bain. Il est nu sous le regard de son chat, et alors il esquisse un mouvement de pudeur devant ce chat, il se couvre de sa serviette. Je lis Jacques Derrida. « Souvent, je me demande, moi, pour voir qui je suis et qui je suis au moment où surpris nu, en silence, par le regard d'un animal, par exemple les yeux d'un chat. J'ai du mal, oui, du mal à surmonter une gêne. Mais pourquoi ce mal ? Ben, j'ai du mal à réprimer un mouvement de pudeur, du mal à faire taire en moi une protestation contre l'indécence. contre la malséance qu'il peut y avoir à se trouver nu, le sexe exposé à poil devant un chat qui vous regarde sans bouger juste pour voir. Malséance de tel animal nu devant l'autre animal, dès lors on dirait une sorte d'animal-séance. L'expérience originale, une et incomparable de cette malséance, qu'il y aurait à paraître nu en vérité, devant le regard insistant de l'animal. Un regard bienveillant ou sans pitié, étonné ou reconnaissant. Un regard de voyant, de visionnaire ou d'aveugle extra-lucide. C'est comme si j'avais honte alors, nu devant le chat, mais aussi honte d'avoir honte. Réflexion de la honte, miroir d'une honte honteuse d'elle-même, d'une honte à la fois spéculaire, injustifiable et inavouable. Au centre optique d'une telle réflexion se trouverait la chose, et à mes yeux le foyer de cette expérience incomparable qu'on appelle la nudité. Et dont on croirait qu'elle est le propre de l'homme, c'est-à-dire étrangère aux animaux, nus qu'ils sont, pense-t-on alors, sans la moindre conscience de l'être. Honte de quoi et nu devant qui? Pourquoi se laisser envahir de honte? Et pourquoi cette honte qui rougit d'avoir honte? Fin de citation. Alors devant ce chat qui le regarde nu, est-ce qu'il a honte de lui comme une bête, qui n'a plus le sens de sa nudité, ou au contraire honte comme un homme qui garde le sens de la nudité? Qui est-il alors, hein? Qui est-ce qu'il est, lui? À qui le demander, sinon à cet autre, le chat lui-même? Cette scène résulte finalement d'un authentique étonnement, la tentative de créer une scène qui ne soit ni humaine, ni divine, ni animale, à partir de laquelle enfin dénoncer tous les discours sur l'animal. Alors quelque chose ici d'inattendu s'est produit, qui n'aurait peut-être pas dû avoir lieu, et tout à coup, tout se précipite, tout se rejoue pour Jacques Derrida, tout se reprend. Ne serait-ce pas alors, chers auditeurs, la déconstruction elle-même et la logique de son travail qui, du point de vue de cette scène, serait également à renouveler? Je cite de nouveau Jacques Derrida. « Depuis cet être-là devant moi, il peut se laisser regarder sans doute, mais aussi il peut lui me regarder. Il a son point de vue sur moi. » Le point de vue de l'autre absolu, et rien ne m'aura jamais tant donné à penser cette altérité absolue du voisin et du prochain que dans les moments où je me vois vu, nu, sous le regard du chat. Alors, reconnaître qu'on est soi-même dans sa mêmeté, dans son identité propre d'homme, cela suppose toujours un détour par l'altérité. Et c'est en tant que je ne suis pas autre que moi que je m'éprouve comme moi, finalement. En l'occurrence, c'est par le biais de cette altérité d'un regard animal que je m'atteins, pour Jacques Derrida, dans mon être. Animal pour une part. Parce qu'en quelque manière, il me précède, ce regard, finalement, a une primauté sur moi. L'animal que donc je suis, qui renvoie à l'idée que l'animal est là avant moi, que je suis en retard sur lui et obligé de le poursuivre, sinon de le suivre, à la trace. Et cet être après nous ouvre alors une dimension sur le temps. Reprendre la question de l'être signifie alors pour Jacques Derrida la dissoudre dans deux dimensions auxquelles elle est en fait subordonnée, celle de l'être avec, l'autre, et celle de l'être dans le temps, à savoir le retard. Alors comment un animal peut-il vous regarder en face? Ce qu'il se tient au bout de ses yeux interrogatifs n'est pas autre chose finalement pour Derrida que la question de la question. Soit celle qui demande qu'est-ce que répondre? Qu'est-ce que répondre veut dire? Doté de la capacité de répondre et non plus seulement de réagir, on voit bien que l'animal, chers auditeurs, opère purement et simplement une suspension, c'est-à-dire une déconstruction de l'ontologie. Car avant la question de l'être comme tel, il y a bien la question du suivre. L'animal est l'opérateur de cette réduction. Alors vous aurez reconnu ici deux dimensions que, dès sa création, le concept de différence entendait conjoindre et mettre au premier plan le temps et l'autre. Et c'est ce que la métaphysique occidentale s'est employée à refouler précisément, dès son origine et tout au long de son histoire. La différence alors assure la présentation de l'étant présent, sans jamais cependant elle-même se donner au présent. Elle conteste au fond cette ontologie en son fond. C'est dans la mise en question de la valeur d'archée, en général, qu'elle va trouver son impulsion. Or, la limite finalement la plus fondatrice, celle sur laquelle Derrida reconnaît la possibilité originaire de l'histoire de soi que se raconte l'homme,
et d'abord le philosophe, c'est celle qu'institue au fond ce mot d'animal. Et alors, dans le cadre d'une relecture critique du discours de la métaphysique, compris comme ce texte au fil duquel l'homme s'est inventé progressivement comme sujet, constatant la clôture de ce discours au moment où elle l'effectue, ben la différence d'Héridienne, arrimée à une constellation de concepts, la trace en particulier, entend rendre compte de cette clôture de l'intérieur, de façon immanente. Et finalement, en retraçant ce parcours dans l'animal que donc je suis, Derrida va répéter que l'introduction du concept de trace a bien pour but et pour effet de passer la frontière d'un anthropocentrisme, en excédant jusqu'à l'opposition du vivant et du non-vivant. Mais alors qu'arrive-t-il dès lors que la trace s'impose à la faveur de l'exposition à un regard multiple et à ce titre irresponsable? Eh bien, il y a une aggravation de la logique de la différence ici. On le comprend puisque l'altérité se fait en quelque sorte absolue. Quant au temps, quand on retarde la pensée sur une trace qui toujours me précède, seulement une absence, eh bien, c'est ce qu'elle nous fait toucher, écrit Jacques Derrida, à la genèse même du temps. L'expression alors s'inscrit dans le cadre d'une lecture de la genèse, de la domination des animaux par Adam. Vous savez, ce passage où Dieu demande à Adam de nommer les animaux, et ce passage, pour Jacques Derrida, est à prendre au pied de la lettre, et doit retenir notre attention ici, puisque c'est pas que l'animal était là avant moi, à un moment du temps réellement antérieur. L'animal se situe plutôt pour Jacques Derrida à la lisière du temps en général, en un temps avant le temps qui à la fois dit l'essence du temps, non la forme du présent, mais celle d'un perpétuel retard du présent sur lui-même, et aussi le lieu de son déploiement. Alors, qu'est-ce que ça engage, cette genèse du temps? Qu'est-ce qui se précipite à partir et au-delà de ce temps d'avant le temps? Eh bien, l'histoire, tout simplement, la possibilité pour l'homme, qui est toujours homme dans le temps, de se raconter. Ainsi, on comprend que l'autobiographie s'est faite confession depuis l'auto, c'est-à-dire le soi, par rapport à soi. Un soi qui, pour Jacques Derrida, est commun à l'homme et à l'animal. Alors, si l'animal apparaît fatalement comme le gardien du secret du temps, il est aussi parce qu'il est là, avant moi, celui qui n'a à proposer nul récit de soi. Et c'est donc contre ce schème temporel que Derrida, dans cet essai « L'animal que donc je suis », en vient à méditer sur la possibilité d'une autobiographie d'avant la chute dans le temps, bien différent d'une histoire du sujet établie depuis la certitude de lui-même, de son propre. C'est bien en ce point de contact, qui est un point zéro, qu'apparaît la possibilité de la rupture entre l'homme et l'animal. Et c'est précisément ce contact, chers auditeurs, finalement, que rompt l'idée d'un propre en ce qu'elle est toujours cette idée référée à celle d'un temps proprement humain. Alors s'exposer à l'expérience animale implique, du point de vue de la déconstruction, de s'avancer au nom d'une autre histoire, d'un autre concept d'histoire. C'est dans le « il y a » anonyme de l'écriture que Derrida va faire résider le lieu de cette possibilité. Il va interroger l'origine du sens et de l'historicité, découvrir le retard comme ce seul absolu philosophique et conclure par suite à l'altérité de l'origine absolue. Alors on comprend que l'enjeu de l'animal que donc je suis serait peut-être de s'approcher autant que faire se peut d'un silence irréductible, de l'origine de l'historicité en tant que soustraite à elle-même. Et c'est ce que devrait autoriser finalement l'expérience du regard sans fond, situé au-delà du langage, de tout langage, auquel s'expose le philosophe et auquel la déconstruction entend faire droit. Et Jacques Derrida l'articule dans cette critique qu'il fait au philosophe de la tradition dans l'animal que donc je suis. Car si la figure de l'animal permet de mettre en continuité des auteurs aussi divers que Descartes, Kant, Heidegger, Lacan, Lévinas, c'est que chacun d'entre eux lui applique une structure d'exclusion. Or, en dépit de toutes les différences qui, autour du thème de la subjectivité, les séparent, ils pensent tous un animal, seulement capable de réaction et jamais de réponse. un animal qui est en déficit, qui manque, qui fait défaut, qui est vu mais jamais voyant. Le thème commun à partir duquel affleure cette structure limitative identique, c'est bien celui d'une existence réflexive attribuée à l'homme seulement, par opposition à la vie, qui serait l'unique élément du soi animal. Donc Jacques Derrida applique à ses auteurs une stratégie critique. À propos de la découverte cartésienne du cogito, l'auteur Jacques Derrida montre ainsi que la présence à soi du présent de la pensée va exclure tout le détachable qu'est la vie, le corps vivant, la vie animale. Cogito ergo sum se pose à la condition de n'avoir rien à voir que l'auto-affirmation d'une vie. On ne pourra, en somme, jamais conclure d'un « je respire » ou d'un « je suis ». Donc, finalement, la thèse de l'animal-machine suit de cette affirmation ego-cogito, immédiatement impliquée par l'être même de la res cogitans, de la substance pensante. Alors, en dépit des profonds déplacements qu'il impose à la métaphysique humaniste et à l'idée même d'une subjectivité constituante, il n'en va pas autrement pour Emmanuel Lévinas, puisque pour lui, Jacques Derrida le remarque, hein, il secondarise dans la définition du soi ou du me voici l'existence comme vie, comme vivance. Alors poser par-delà le soi, le jeu du je pense, c'est laisser dans l'impensé la vie. Pourtant, cette vie est bien commune au jeu et au soi. C'est donc l'unité de cette vie qui traverse l'empirique comme le transcendantal que Derrida entend repenser. Elle est ce qui assume la différence du transcendantal et de son autre, du sens et du fait, la différence du transcendantal et de tout ce qui, déjà, selon Husserl, doit demeurer extérieur à l'ego constituant. Alors l'idée de Derrida qui laisse, pour ainsi dire, l'empirique fractuer une sorte de sacro-saint sanctuaire du transcendantal, c'est bien de montrer que la phénoménologie est déjà contestée de l'intérieur par ses propres descriptions du mouvement, de la temporalisation et de la constitution de l'intersubjectivité. Alors comment le geste de Jacques Derrida pourrait-il ne pas impliquer une autre pensée du rapport à la vie et à la mort? Eh bien, c'est justement là qu'on voit émerger la racine commune du transcendantal et de l'empirique, qui sera désignée par la différence à soi du vivre comme un rien supplémentaire. Au titre du concept ultra-transcendantal, la vie devient alors son propre langage, sa propre opposition à son autre, à la non-vie. Ainsi, on peut dire que la scène d'ouverture du livre que nous avons lu, Jacques Derrida l'a reconnu, a le statut d'une expérience limite. Quand tel animal plante son regard dans le mien pour ne rien dire et ne rien en faire, eh bien finalement, il me rend étranger à moi et me rappelle à l'extraordinaire étrangeté de mon être, à son étrangèreté au monde. Sa dérobade qui me signale comme être à jamais retardataire livre au cœur de ma conscience la facticité du monde. La rencontre de l'altérité radicale plutôt qu'absolue d'une auto-affection de la vie seulement formatrice d'un soi me fait alors éprouver l'abîme d'une extériorité, d'une hétérogénéité, d'une absence à moi-même ou d'un ex-centrement originaire qui est finalement la véritable condition de mon autoconstitution en tant que je réflexif. Finalement, l'animal hors de moi désigne et dessine une finitude en moi, et c'est bien ce qui nous rassemble.
Merci beaucoup Isabelle. Voilà, nous terminons aujourd'hui cette émission spéciale consacrée à Jacques Derrida sur le plan de l'éducation et du rapport aux animaux. Voilà, nous vous retrouvons le 16 mai, jeudi 16 mai. Merci beaucoup de votre écoute. À très bientôt sur Radio Aligre.